On est gâté cette année niveau cinéma d'horreur. Il y a beaucoup de propositions très diversifiées. Toutes ne sont pas excellentes, mais il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Il y a beaucoup de choses à en dire. Bonjour, bonjour déjà. Là, rien qu'en début d'année, on a eu Undertone, Okoum, La Momie de Lycronine. Il y a Obsession qui sort ces jours-ci, là où je suis en tout cas. Passenger qui va arriver, il y a Backrooms. Plus tard dans l'année, on aura Evil Dead, Resident Evil, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, je me suis dit que ce serait cool de faire régulièrement, ou plutôt à intervalles réguliers, une vidéo comme je vais le faire aujourd'hui qui va me permettre de parler de plusieurs sorties. Parce que toutes ne méritent pas, en tout cas dans ce que j'ai à en dire, une vidéo dédiée. Donc ça me permettra de donner mes two cents et de vous conseiller ou non un maximum de films dans ces vidéos. Backrooms, je ferai une vidéo dédiée par contre, parce que ça va être un moment important pour le cinéma d'horreur traditionnel et les ponts qu'il essaie de dresser avec l'horreur internet, qui sont deux univers qui sont a priori hermétiquement séparés. Que le film soit réussi ou non, il y aura des choses à en dire, mais apparemment, des premiers échos que j'en vois, il a l'air vraiment réussi, donc j'ai très hâte de le voir. Aujourd'hui, on commence donc avec une vidéo où on va parler de trois films, on va parler de Undertone, de Whistle et de Okoum. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Celui-là même ! Vous le savez, dans mes vidéos, j'ai souvent tendance à vous conseiller des palanquiers de films, et j'avoue, c'est pas toujours facile de mettre la main dessus. Notamment à cause de la géolocalisation, puisque comme vous le savez, les catalogues des plateformes de streaming changent d'un pays à l'autre. Et c'est là, notamment, qu'il faut avoir un bon VPN. Mais c'est pourtant vrai. NordVPN, déjà, c'est un outil efficace et ultra simple qui sécurise votre connexion, et le fait très bien. Résultat, vous pouvez naviguer en toute tranquillité sans avoir à redouter les trackers, les pubs invasives, les sites frauduleux, les vols de données. C'est très important ça, éviter les vols de données. Check. Parce qu'aujourd'hui, se balader dans les méandres d'internet sans une bonne protection, ça n'a aucun sens les amis. Là, avec NordVPN, en un seul clic, vous pouvez changer votre adresse IP, et ça veut dire deux choses. Déjà, vous êtes anonyme. Du coup, ça empêche les algorithmes de décider à votre place ce que vous allez regarder et de vous enfermer dans une bulle qui vous ruine la curiosité. Donc, à vous les découvertes inattendues, ça c'est précieux. Mais aussi, vous pouvez donc vous connecter à un autre pays. Et là, à vous les meilleures offres. Billets d'avion, hôtels, équipements, voyages sur la lune, nunchaku et toutes sortes de choses. Mais aussi, donc, un accès à tous les catalogues des plateformes de streaming. Genre, vous voulez voir Audity, l'excellent précédent film du réalisateur de Okoum, dont on va parler dans cette vidéo ? Il est sur le Prime Video des Pays-Bas. Donc voilà, clic, boum, vous l'avez. Vous voulez voir Vivarium, histoire d'avoir une bonne dose d'horreur liminale avant la sortie des Backrooms ? Eh bien, il est sur le HBO Max portugais. Voilà, je sais pas pourquoi portugais, enfin, voilà, c'est comme ça. Et ainsi de suite, sur les chapeaux de roue. Donc, avec ce code spécial, bénéficiez de 4 mois gratuits sur les abonnements NordVPN de 2 ans, et pendant les 30 premiers jours, c'est satisfait ou remboursé. Retrouvez toutes les infos en description et dans le commentaire épinglé, et quant à moi, je vous souhaite une très bonne vidéo. Ok, on commence avec Undertone de Yann Tuason, qui est la grosse hype horrifique de début 2026, qui a été marketé comme le film le plus effrayant que vous écouterez jamais. Voilà, le twist il était là, c'est que tout est axé sur le son, quasiment tout. L'histoire elle est très simple, c'est deux amis qui enregistrent un podcast surnaturel à distance. C'est un homme et une femme, et la nana est cloîtrée chez elle parce qu'elle s'occupe aussi de sa mère qui est malade, qui est catatonique, à l'étage. Donc ils enregistrent le podcast au fil des jours, au fil des semaines, à distance. Et il se trouve qu'ils ont reçu des enregistrements qui seraient habités slash hantés par une présence. C'est ça le truc qui les accompagne. Et ils vont commencer à les diffuser et commencer à essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et la question c'est, est-ce qu'ils vont continuer à les écouter ? Alors que la tension monte et qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas avec ces enregistrements. Let me guess. It's a demonic possession. Okay, easy, easy, alright. Donc Undertone, c'est un film qui a été hypé déjà sur son concept qui fait la part belle au son et à l'écoute qu'ont les personnages de ces enregistrements, mais aussi pour le fait que c'est pas un micro-budget qui est là, c'est un nano-budget. Le film a coûté 500 000 $, ce qui est plus que rien du tout. Quand on le compare en fait au circuit classique, même le circuit classique des films indépendants les plus micro-budgets qui soient, je serais très curieux de savoir comment ils ont utilisé le budget, parce que le film est minimaliste à l'extrême, il se passe dans une seule unité de lieu, avec une seule actrice. Et le premier truc qui frappe en tout cas visuellement, c'est que la maison ne ressemble pas à un set de maisons classiques dans ce que tu imaginerais être un film d'horreur. Vous savez, ces sempiternelles maisons de films d'horreur qui ont toute la même architecture, avec le sempiternel escalier dans le hall d'entrée qui monte à l'étage. Et si tu contournes l'escalier par la gauche, en fait, sur la droite, t'as la porte qui descend à la cave, et plus loin, t'as le salon qui, tout est bien sûr mal éclairé. En fait, c'est des sets qui sont étudiés pour permettre les moments creepy, mais qui, en fait, en termes de réalisme, tu te dis, mais pourquoi les gens vivent là-dedans? Ou s'ils vivent là-dedans, et pourquoi ils réarrangent pas, en fait, l'éclairage ou juste comment les choses sont branlées pour en faire un lieu habitable et sur lequel t'as pas envie de t'ouvrir les veines dès que tu vas pisser la nuit, quoi. Donc il y a ce truc vraiment où, dans Undertone, t'as affaire à une vraie maison. Et pour cause, ils ont tourné dans la maison de famille du réalisateur. Donc il y a un truc très personnel et très réaliste tout de suite qui se sent. Après, ça n'empêche pas le réalisateur de filmer l'espace de façon assez intelligente, en ayant vraiment compris toutes les ficelles de comment faire travailler en fait l'esprit du spectateur, même à partir de rien. Il y a beaucoup de cadrages qui donnent l'impression presque que c'est filmé du point de vue de la maison elle-même, l'impression en fait d'une présence lancinante. Il y a toujours cette notion de... Putain, le reflet que j'ai vu dans la vitre là, c'est quoi c'est... Ah non, c'est juste le porte-manteau en fait. Mais jamais en mettant l'accent dessus, parce que c'est un film qui aussi tient ses plans sans céder à... toujours dynamisé parce que t'as peur d'emmerder les spectateurs. Du coup, t'as le temps de te perdre dans cette atmosphère lancinante, d'explorer un petit peu le cadre, ce qui s'y passe, et d'y trouver ce qui pourrait être une source de menace. Ce qui souvent n'en est pas une, encore une fois, c'est un porte-manteau dans un reflet. Mais ça fonctionne super bien. Play the next one. Let's find out. Ce qui est très cool aussi avec ce film, c'est que généralement, quand on parle du cinéma horrifique, on parle avant tout d'imagerie horrifique, en partant du principe, même sans y réfléchir, que de toute façon, le son est un accompagnement important, mais un accompagnement qui va accentuer ce qui est déjà là. Alors que, bon, les deux sont à égalité, on parle d'imagerie horrifique, il faudrait parler de sonderie horrifique, j'imagine, les soundscapes horrifiques, et le film montre vraiment ce qui devrait être une évidence, mais qui n'en est pas une, c'est ce que tu peux faire avec le son et comment tu peux jouer avec la psyché du spectateur, avec des choses dont il a à peine conscience, sur la manière de distordre un son, sur la manière dont les choses vont s'entrecroiser, sur des fréquences que tu vas pas capter tout de suite, mais qui, comme ce que Gaspard Noé avait fait sur Irréversible, en fait, où il y avait des fréquences que tu captes pas en fait à l'écoute, mais qui te mettent super mal à l'aise. Enfin bref, il y a tout un univers de choses en termes de sound design sur le cinéma horrifique, qui ne consiste pas juste à bruiter. Après, j'ai aussi des réserves sur le film, notamment au niveau de l'écriture. Je me rends compte ces dernières années que je suis de moins en moins fan de ce qu'on pourrait appeler la demonsploitation. Les films d'horreur où c'est toujours la photo démon. Tout le côté un petit peu... Bah en fait, le fin mot de l'histoire, c'est que bah en fait, c'est Jean-Michel Démon Mineur. Voici son nom, voici son numéro de sécu. Son histoire, c'est qu'il a été invoqué en 1873 par un tel ou un tel. Et en fait, derrière, bah, t'as toujours un culte satanique qui tire un petit peu les ficelles. Et tout ça est un complot qui se referme autour du protagoniste qui n'avait pas conscience qu'il ou elle était lié d'une manière à un truc qui le dépassait. Je comprends tout à fait l'attrait de ça, et notamment il y a tout un truc lovecraftien. Ce truc lovecraftien de l'ascendance horrible. L'ascendance indicible qui pèse sur des personnages qui n'en ont pas conscience et qui se rendent compte à la fin en fait de tout ce truc qui couvait derrière eux. Traité de cette manière, c'est quelque chose dont je suis toujours vraiment curieux. Mais ce que le cinéma en fait ces dernières années est un truc beaucoup plus prévisible et beaucoup plus... mécanique. Coucou Shelby Hawks. Alors que je trouve que généralement l'arbitraire est bien plus effrayant. Il se trouve que certaines choses se produisent et parfois t'es au mauvais endroit, au mauvais moment. Je trouve ça vraiment aujourd'hui beaucoup plus effrayant et beaucoup plus inquiétant que n'importe quel narratif du Chosen One. Est-ce que je veux dire? Je crois que vraiment le Chosen One est devenu un des tropes de cinéma que je déteste le plus. À part quand c'est un petit peu traité différemment ou retourné un petit peu comme le fait Matrix ou même Harry Potter à sa manière. Welcome to the Undertone Podcast. Et niveau écriture, le film aussi part dans certaines directions thématiques qui traitent pas vraiment, qui donnent l'impression de traiter sans vraiment les traiter, notamment tout le rapport à la maternité. C'est pas un spoiler parce que ça on l'apprend dès le début du film, l'héroïne découvre qu'elle est enceinte de quelques mois. Et il se trouve que l'entité est plus ou moins liée dans son histoire, dans ce qu'elle fait en fait aux femmes enceintes. Tu fais ok, pourquoi pas. Et là tu dis ok, la note d'intention, intéressant, retournement thématique parce que le rapport de l'héroïne à sa mère dont elle s'occupe, bah là tu retournes à la dimension de maternité où elle-même va devenir une mère, donc sur le papier c'est intéressant, mais le film, en fait tu enlèves toute cette thématique de la maternité, le film est rigoureusement, mais absolument rigoureusement le même. Mais en tout cas, au-delà de ses réserves, c'est un film qui fait plaisir. C'est un film qui fait plaisir parce qu'il est super inspirant dans sa démarche à faire avec trois fois rien, beaucoup, et créer une véritable atmosphère qui est marquante. Il y a un cœur qui bat dans le machin, ça essaye des choses. Du coup, je conseille Undertone. Le deuxième film dont on va parler, c'est Whistle de Corinne Hardy. C'est le réalisateur qui a fait La Nonne. Et Whistle, c'est typiquement le genre de film qu'un studio lambda va proposer aux gars de Undertone, après avoir vu Undertone et avoir dit « Ah putain, c'est cool ton petit film là, tu aurais... tiens, voici un petit peu plus de budget. » Et effectivement, Whistle, c'est un film où tu sens la photo bien plus travaillée, tu sens qu'il y a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de budget. Et c'est tout, parce que c'est extrêmement mauvais. En fait, c'est typiquement le genre de film qui n'existe pas par sa volonté de raconter quelque chose, mais par la volonté d'occuper une case et de produire quelque chose pour remplir de l'espace, parce que le studio avait un budget, il fallait occuper le marché, enfin bref. Et c'est très difficile de mettre ça sur les épaules du scénariste, parce que peut-être qu'on a affaire en fait à un cas de figure où le scénario originel était super intéressant. C'est un truc qui a été acheté par un studio, le truc ensuite par le studio a été désossé, lissé pour arriver à ce produit, parce qu'on peut pas appeler ça autrement qu'un produit. Et en fait, le scénariste est le premier dégoûté de ce qui s'est passé. Mais tu sens en tout cas que c'est un film qui n'existe que par et pour son pitch. La première idée qui est le poster, le titre et comment on va marketer. Il y a des bons films qui peuvent naître comme ça. Et puis il y a Whistle. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, pitch-nous un truc. C'est un sifflet de l'enfer et si tu souffles dedans, il faut pas parce que... Parce que quoi? Parce que quoi? Je sais pas, donnez-moi 3 semaines, je reviens avec un scénario. Et il revient au bout de 3 semaines avec un scénario, et il fait « Bah si tu souffles dedans, en fait, il y a une entité qui vient te tuer en prenant la forme de ta future mort, mais un peu en avance. » Putain, ça va aller bien 3 semaines, ça. Et encore une fois, il y a de bons films qui peuvent naître comme ça. Sur un malentendu, ça peut marcher. Mais encore faut-il avoir envie de quelque chose. Là, je vous pitcherais bien le film, mais en fait, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Tout n'existe que par et pour ce high concept. Toutes les mises en situation, tous les personnages et tous les rebondissements que vous pouvez imaginer sont... le template absolu de la formule horrifique qui n'est investie par personne. C'est une musicalité qui est tellement prévisible et tellement exactement à la seconde, à la microseconde près à sa place, que tu te dis, putain, mais comment c'est possible en fait? Et là, je pars du principe que peut-être c'était un problème au niveau du scénario, et si c'est le cas, tu te dis, mais comment en tant que scénariste, tu peux prendre une demi-seconde même de plaisir à écrire ça? Parce que même dans les films les plus lissés et les plus inintéressants, parfois, sur une seconde, tu dis « Ah putain, ça a essayé quelque chose !» Ça veut pas dire que c'est réussi, mais ça a essayé quelque chose. Il y avait quelqu'un derrière, il y avait un être humain. Tandis que là, en fait, on est typiquement sur le genre de produit, le côté de Hollywood qui est mis en danger par les développements récents de l'IA. Parce qu'en fait, c'est le côté de Hollywood qui traite déjà ses produits, ses équipes créatives et ses démarches comme elle commanderait quelque chose à une IA. C'est ces films IA, qui n'ont pas été faits par une IA, mais qui sont des films IA quand même par leur absence totale d'être. Il y a Nick Frost qui a un petit rôle. Il dégage rapidement, il est juste là pour faire de l'exposition, parce que c'est un prof normal qui en fait est un ultra expert des mythologies, du folklore sud-américain. Regardez, j'ai un bouquin sur votre sifflet de l'enfer. Mais oui, forcément. Et tout ça, je le dis pas uniquement pour taper sur l'ambulance. Un peu, mais c'est aussi parce que si vous vous intéressez à l'écriture, et notamment à l'écriture de films d'horreur, c'est un film qui est intéressant à voir. Parce que là, on est en plein dans l'adage qui veut que on apprend beaucoup des bons films, mais on apprend encore plus des mauvais films. Et là, on est tellement sur le désossage narratif dans son expression la plus basique et la plus non investie, que je pense que au même titre que tu ouvrais un manuel d'écriture et que tu vois en fait les gens qui t'expliquent les bullet points, si tu veux faire un truc assez calibré, c'est comme ça que tu dois écrire, bah là, voilà, t'as pas besoin d'acheter le manuel, tu jettes un coup d'œil à Whistle et tu comprends immédiatement. Au moins, ça a ça de positif, quoi. Mais du coup, c'est bien, ça te donne, chaque fois que tu lèves les yeux au ciel en regardant ce type de film, tu dis, ah tiens, ça c'est un truc que je veux pas reproduire. Et du coup, ça va améliorer la qualité de votre écriture. Du coup, si vous avez l'occasion, jetez un coup d'œil à Whistle. Mais évitez de payer pour le voir. Mais heureusement, Okoum de Damien McCarthy est arrivé, et ça fait plaisir. Damien McCarthy, j'ai beaucoup beaucoup aimé ses deux précédents films, Caveat et Oddity. Et là, Okoum, en fait, ça raconte l'histoire d'un écrivain américain dépressif, et pas très aimable, qui va en Irlande pour répandre les cendres de ses parents. Et il va se rendre compte que, entre le folklore local à base de sorcières et des choses qui gigotent dans l'ombre, l'hôtel dans lequel il séjourne pourrait abriter des secrets qui sont dangereux. Voilà.
A witch.
Alors, Caveat et Auditi, ils étaient vraiment axés sur une atmosphère très lancinante. Et là, avec ce film, qui est donc le troisième long-métrage de McCarthy, c'est comme si McCarthy s'était dit « Putain, j'ai envie de faire parler la poudre, cette fois-ci. » Et ce film, c'est comme un manège hanté. Dans d'autres contextes, je pourrais dire ça d'une manière très négative, mais ici, je le dis dans la manière la plus positive qui soit. Il y a une générosité et un amusement et un plaisir à faire dans ce film qui sont palpables à tous les niveaux. S'il y a pas mal de jumpscares, mais ce sont jamais des jumpscares cheap. C'est pas un chat qui t'est balancé à la gueule ou quelqu'un qui est derrière l'héroïne et qui veut lui parler et qui fait « Ah !» Tu dis « Mais pourquoi tu fais ça ? Personne ne fait ça !» Parce qu'il faut faire un jumpscare. Non, là, il y a vraiment un sens du jumpscare justifié chaque fois dans la narration et toujours avec un sens de l'imagerie creepy uncanny qui va vraiment marquer. Juste avant, je disais que c'est un film vraiment où tu sens un plaisir palpable à le faire, et ça fait en fait de Hukum un film qui est surprenamment feel-good. Là où Caveat et Auditi étaient beaucoup plus sombres dans leur tonalité, Hukum est sombre, mais Caveat et Auditi, il y avait beaucoup plus de désespoir. Là, sur Hukum, c'est un film qui est surprenamment feel-good, donc, tout en restant très raccord en fait avec toutes les obsessions et les thématiques que McCarthy développe depuis trois films. Son obsession pour les sortes de créatures pantins, poupées qui n'appartiennent vraiment qu'à lui, avec une sorte de touche folklorique derrière. Son obsession pour les grooms d'hôtel, pour les petites sonnettes sur lesquelles tu tapes. Cette espèce d'atmosphère folklorico-mythologique irlandaise qui a vraiment une saveur bien à elle. C'est très difficile à quantifier ce genre de choses. Tant mieux, parce que ça crée un petit peu cette la magie qui fait qu'un film n'appartient qu'à son réalisateur, parfois, comme c'est le cas ici. Le dosage de l'humour, c'est un truc qui est très très compliqué à faire en horreur, parce que c'est comme en fait deux composés chimiques, tu mets juste une goutte d'horreur et une goutte de comédie, et en fait, le composant de la comédie va complètement phagocyter, complètement bouffer l'horreur. La comédie, généralement, a tendance à méchamment désamorcer tout ce qui pourrait s'apparenter à de la peur, et quand tu fais une comédie horrifique, c'est jamais moite-moite. C'est toujours une comédie avant tout, qui se fait dans un contexte qui a une esthétique un petit peu horrifique. Il y a des contre-exemples à ça, bien sûr, genre le Drag Me to Hell de Sam Raimi, qui est un excellent contre-exemple. Et Hukum est un autre contre-exemple. C'est un film qui est souvent drôle, mais qui n'est jamais une comédie. Les personnages sont hauts en couleur sans jamais être bouffons. Et ça se fait jamais au détriment de la véritable angoisse que tu peux ressentir par rapport à certains moments qui sont respectés pour ceux qui sont censés être, quoi, des vrais moments d'angoisse. En fait, le rire que tu peux trouver dans Hukum, c'est le rire nerveux que tu as pour désamorcer quelque chose qui est hardcore à encaisser. Et c'est marrant de voir des interviews de McCarthy. Il a le plus grand mal du monde à parler de son approche de tout ça, de pourquoi un effet fonctionne ou non, de pourquoi le dosage de l'humour de cette manière fonctionne, pourquoi un jumpscare fonctionne. Il passe son temps à botter en touche avec une innocence qui fait presque plaisir à voir, quoi. T'as presque envie de lui faire un hug et tu dis, le mec, il est branché sur son instinct de réalisateur, sur juste un sens aigu de ce dont a besoin une scène pour fonctionner. Et ça se fait au cas par cas, et le mec n'arrive pas à tirer des leçons générales en fait de cette approche-là, à ce stade en tout cas. Et le truc qui fait vraiment plaisir, c'est que, bon, là on est vraiment sur un film qui est beaucoup plus gros que ses deux précédents, avec plus de budget, avec une star hollywoodienne, donc on est entré dans un game différent, McCarthy dans un game différent. Mais ça l'a pas empêché de garder la sève, comme je disais un petit peu avant, de ce qui faisait son style sur les deux premiers. Mais surtout, il a réussi à garder une écriture qui est relativement ouverte. Et ça, c'est pas évident, parce que Hukum, et ses deux précédents aussi, mais surtout Hukum, est bourré de choses qui, en temps normal, se taperaient des notes de studio débiles sur « Ah, il faudrait peut-être pas faire ça comme ça. » Genre, d'une certaine manière, il y a deux antagonistes. Non, non, il faut en choisir un, sinon ça va déstabiliser les spectateurs. Ah, le personnage principal, il est pas très aimable, hein. Faut le rendre un petit peu plus sympa, comme ça on pourra s'identifier, les gens pourront dire « It's literally me !» Le prologue et l'épilogue, a priori, ils ont aucun rapport avec le film, ça va déstabiliser les gens, ils vont se demander s'ils sont même dans la bonne salle de cinéma. Au début du film, je me suis demandé si j'étais dans la bonne salle de cinéma. Mais ils sont super importants thématiquement, et tellement raccord avec le reste. Et tout ça, il a réussi à le garder, ce qui rend depuis le début, en fait, depuis son premier film, son écriture relativement insaisissable, tout en investissant en fait un genre qui est très codifié, qui est le genre de l'épouvante gothique à l'ancienne. Après qu'on se comprenne, écriture non calibrée, ça veut pas forcément dire écriture expérimentale. Okoum n'est pas un film expérimental, mais c'est rafraîchissant. Et si j'ai appelé cette vidéo « Ce film me redonne foi en l'horreur », en fait j'aurais dû l'appeler « Ce film me redonne foi en l'horreur grand public ». Mais c'est plus long et tout ça, un titre court, c'est mieux. Parce que, bien sûr, dans le cinéma indépendant, il y a des trucs incroyables qui se font dans le domaine horrifique, mais sur le domaine grand public, Okoum montre qu'il n'y a pas besoin de s'échapper dans le high concept, dans le méta ou dans les effets de manche un petit peu poseurs pour proposer quelque chose qui suscite un intérêt. Dans un contexte où le cinéma d'horreur grand public, maintenant, c'est principalement Whistle, et ben, il y a Okoum qui arrive et qui montre que les codes classiques de l'horreur, notamment en gothique et des choses qu'on connaît par cœur, peuvent être investis avec une vibe personnelle, un style personnel, des obsessions personnelles. C'est une évidence de dire ça, mais quand quelqu'un te le rappelle avec une évidence et une aisance et un plaisir tel, ça fait juste du bien en fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme je le disais, ce genre de vidéo, il y en aura plusieurs dans l'année. En tout cas, avant le deuxième volet de ces vidéos, il y aura celle qui sera dédiée à Backrooms. Mais avant Backrooms, je pense faire potentiellement un truc sur le Mandalorian, le film, parce que ça sera une bonne occasion de prendre le pouls en fait de la sempiternelle discussion autour de la différence entre le cinéma, la télévision, les plateformes de streaming et tout ça, et comment le truc a fini par se mordre la queue. Bref, j'ai pas encore vu le film, je sais pas ce qu'il vaut, mais on verra. Dans tous les cas, je vous dis à très très bientôt, n'hésitez pas à partager ce que vous pensez de ces trois films dans les commentaires ou de vos découvertes de pépites, vos découvertes récentes de pépites horrifiques. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous.